Merci beaucoup, Nathalie, de me confier la modération alors que tu as vraiment tout fait. Donc, Maria Pia, tu vas nous présenter aujourd'hui le projet Lettres Arts. Je rappelle que tu as été professeure d'histoire moderne à l'Université de Cagliari et que tu es actuellement directrice de recherche CNRS à l'IHMC, donc Institut d'histoire moderne et contemporaine. Donc, nous t'écoutons avec attention. Merci.
Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie et honorée d'être ici dans cette première journée des écoles normandes, de cette rencontre. Merci Léa, merci les collègues et amis lyonnais et merci Agnès. Comme d'habitude, mes remerciements les plus sincères pour tout le travail que vous avez fait pour nous. Alors, je vais aller vite parce que de toute manière, je suis devant un public de spécialistes et on a déjà mis sur la table plein de questions que nous avons tous et toutes déjà rencontrées dans notre travail, plus ou moins expert dans les champs des humanités numériques. Et surtout, vous avez déjà eu le temps de lire ma première diapo, donc pas la peine que j'y perde trop de temps. Et j'ai essayé là de synthétiser un peu les éléments et les tendances qu'on peut remarquer dans ce qu'on a appelé, à mon sens, à juste titre, les déluges de projets d'humanité numérique qui ont frappé de plein fouet. Toutes les disciplines des humanités et on a déjà eu deux exemples assez marquants de cette utilisation, les lettres pontificales, d'un côté la correspondance de Montesquieu de l'autre, donc deux disciplines sœurs des humanités avec des corpus et des traitements différents. Et pour l'histoire de l'art, c'est notamment ces deux éléments, à la fois l'édition de sources, ou pour mieux dire la réédition de sources, et l'analyse de réseaux qui ont l'analyse spatiale et l'analyse des réseaux qui commencent à s'affirmer aussi dans les domaines de l'histoire de l'art. Alors, je ne suis pas historienne de l'art, moi, personnellement, je suis historienne. Mais en tant que spécialiste de la ville de Rome à l'époque moderne, on est forcément confronté à des questions de patrimoine, d'histoire de l'art, d'histoire de la culture au sens large. Et en fait, c'est avec des amis et des collègues historiennes de l'art qu'on a monté les projets Lettres-Arts sur lesquels je vais revenir. Mais avant de... Ah, il ne veut pas. Attendez. Alors, laissez-moi juste un peu introduire cette notion de seconde vie qu'on a voulu mettre dans le titre de mon intervention et qui, à mon avis, effectivement, est un peu la clé. Et on a déjà, avec la correspondance de Montesquieu, on a vraiment vu qu'est-ce que c'est qu'une seconde vie. Et même avec les lettres pontificales, c'est, je ne sais pas, la quatrième, la dixième vie de cette source. Mais pour l'histoire de l'art, c'est un peu la même chose. Parce que, comme vous le savez sans doute, les correspondances ont toujours été une des sources classiques de l'historien. Et même si, disons, la critique à l'utilisation de ce type de sources a été élaborée notamment dans les, disons, 40 dernières années. Mais n'empêche que les lettres restent. On a changé la manière de les analyser, de les approcher, de les considérer, de les étudier. Mais si un historien vous dit qu'il n'utilise pas les correspondants, il ment, hein, tout simplement. Parce que c'est complètement faux. On essaye, tout en sachant que c'est une pratique performative, que on écrit ce que l'interlocuteur attend de vous selon des codes très structuré, très figé. N'empêche que tout le monde va voir qu'est-ce que les gens s'écrivent, pourquoi, quelle date, selon quel rythme, quel flux, etc., etc. Alors, dans l'histoire de l'art, un peu comme dans l'histoire de la littérature, j'ose faire, mais avec des problématiques spécifiques, mais disons voisines qu'avec l'histoire de la littérature, les correspondances des artistes ont été un grand classique, notamment au XIXe siècle, quand les canons de l'histoire de l'art se définissaient, et ils se définissaient de manière surtout nationale, enfin, selon des grilles de lecture de l'histoire de l'art nationale. Les lettres ont été un grand chantier collectif. Tous les biographes, enfin, c'était surtout les genres que les Anglais appelaient les life and letters, c'est-à-dire les genres de biographie dans lesquels la correspondance était en général tissée dans les récits biographiques et servait à illuminer la personnalité, les œuvres, la création. Enfin, on avait l'idée que la lettre pouvait ouvrir des aperçus sur la création, au fond. Et dans ce sens, je pense qu'il y a une analogie avec les sciences, d'un côté, parce qu'on étudie les lettres des scientifiques dans les mêmes buts, et les auteurs. Et donc, voilà, là, c'est juste une espèce de galerie que je vous ai mis, mouchissime, avec les images volées de Internet. Cela dit, vous voyez, là, je vous ai aussi mis une édition moderne, parce que là, Antonio Canova, vous connaissez, j'imagine, c'est de son temps, peut-être le sculpteur le plus célèbre de son temps, de la fin du 17e, fin 18e, début 19e. C'est un sculpteur originaire de Venise qui arrive à Rome, fait sa carrière à Rome. C'est l'un des artistes les plus connus de son temps. Et dès son vivant, on commence à éditer des lettres, mais après, il y a aussi des correspondances éditées de manière scientifique, selon des critères scientifiques, des éditions papier qui se poursuivent encore aujourd'hui. Alors, le numérique a donné une deuxième vie de ce genre de corpora qui sont, par ailleurs, des corpora qui restent encore, il y a beaucoup de ces lettres qui sont encore inédites, qu'il faut les chercher. Mais bon, disons qu'il y a beaucoup de projets, là je vous en ai mis différents, on va, si j'ai le temps, on va en explorer certains, parce que c'est un florilège de, comme je disais tout à l'heure, de projets, de programmes, de réédition, et on a un peu de tout. Là, je vous ai mis des Allemands, des Danois, des Français, des Espagnols, des Italiens qui travaillent à Liège, et on pourrait continuer. Et là, je fais juste une petite parenthèse à propos de financement, parce qu'on a évoqué la question tout à l'heure. Il y a cette espèce de double bind actuelle dans la recherche, c'est-à-dire que vous n'avez pas de financement si vous n'avez pas un petit volet humanité numérique dans votre projet. Ça fait joli, ça fait chic. Mais en même temps, on est en général toujours appelé sous-financé. On a en fait des financements ne suffisent pas à mener à bien, parce qu'en général, en plus, et c'était sans doute notre cas, mais bon, faut pas, pour des raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui, il ne faut pas prendre d'exemple sur nous, mais en général, on sous-estime toujours les temps, l'effort, la main-d'œuvre qui est nécessaire à ce genre de projet, et du coup, on n'a pas assez d'argent, et il y a le cimetière des projets d'humanité numérique entamé et mort est plus grand que le Père Lachaise. Voilà. Et alors, là, je vous ai lu tout à l'heure qu'il y a, et on l'a déjà vu d'ailleurs avec les communications qui m'ont précédé, qu'il y a différentes façons de faire. Parce que ça ne suffit pas de dire édition numérique. Édition numérique, ça veut dire énormément de choses. Et on va de la plus basique, et là aussi, si quelqu'un vous dit qu'il ne l'utilise pas, il ment. C'est-à-dire, on a tout ce qui concerne, par exemple, si je clique, je vais en ligne. Non, pas du tout. Alors, échec. Premier échec. Comment on fait? Non. Bon, je ne suis pas capable. Allez, c'est pas grave. Alors, on a déjà vu d'ailleurs avec les lettres pontificales, on a des traitements qui sont tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais la mise en ligne d'éditions papier anciens. Et là, on va de Google Books, parce que comme c'est hors copyright, la plupart des éditions anciennes de correspondance, les artistes que je vous ai montrés tout à l'heure, on les trouve sur Google Books. Et on utilise Google Books. Je suis désolée de le dire, mais finalement, c'est presque inévitable. Mais il y a un niveau, disons, supérieur à cela, c'est-à-dire la réutilisation des éditions papier, mais avec un traitement qui serait de l'ordre du calendar, du registre, de l'indexation. Là, par exemple, désolé, je ne peux pas aller en ligne, mais je vous ai mis là, par exemple, vous voyez là. Ça, c'est la correspondance d'un grand scientifique hollandais du XVIIe siècle. Et vous pouvez voir que d'un côté, il y a la mise en ligne des volumes papier, mais avec un travail d'indexation contemporain qui facilite la recherche et met à jour cette édition. Sinon, vous avez, par exemple, là, encore une fois, désolé, je ne peux pas vous le montrer en ligne. Là, par exemple, ce peintre, c'est un peintre britannique, James Barry, qui travaille à Rome pendant très longtemps. Alors, ces lettres avaient déjà été éditées, en fait, irlandais, à vrai dire, mais bon, britannique. L'équipe de recherche, ce qu'il a fait. Non, là, je pense que c'est.
Il n'y a pas le lien.
Non, il n'y a pas le lien. Il y a le lien après.
D'accord.
Si je fais avec ça, je veux.
Ah, ok. Avec ça, vous mettez dessus et vous
okay,
cliquez.
Ok, ok, ok. Alors, vous voyez l'amateurisme. Ah oui, vous jusqu'à là. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait, cette équipe? Il a pris l'édition ancienne et il l'a retranscrite. Et donc, les lettres sont accessibles en mode texte avec des notes qui ont été ajoutées. Et je vous ai mis ce projet parce que c'est un bon exemple d'un projet caduque. C'est-à-dire que l'un des grands problèmes qu'on a quand on entame un chantier d'humanité numérique, c'est la pérennité de l'hébergement. Et la plupart du temps, on n'a pas la certitude d'avoir un hébergement de longue durée. Nous avons eu de la chance parce que pendant qu'on élaborait notre base de données à nous, le site était accessible, donc on l'a utilisé. Mais quand je préparais les PowerPoints pour vous les montrer, le site n'existe plus. Il n'est plus accessible parce que sans doute l'institution qui l'hébergeait n'a plus. C'était, vous voyez, ce type de projet financé, mais qui n'ont pas pris les soins on n'a pas eu la possibilité de pérenniser leur, leur domicile physique, en fait. Alors, là, par contre, on a, si on monte encore à une échelle supérieure, on a des projets comme la correspondance de Van Gogh, où, on va voir si ça marche, non. Tant pis, ça. De toute manière, on n'a pas le temps. Alors, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de différent. C'est-à-dire, dans l'idée que, notamment pour les grands artistes, on a une pluralité d'éditions papier, en général d'éditions partielles de correspondances. Donc, ils ont décidé de tout republier en transcription texte. Et avec des critères modernes et avec des commentaires mis à jour, enfin contemporains. Après, vous avez, si on revient un peu au niveau base, vous avez la publication de lettres en format image. Alors, cela est un type d'édition de correspondance qui se répand de plus en plus. Pourquoi? Pour les raisons que auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, les questions de financement et en général des questions de mise en valeur de collections patrimoniales. C'est-à-dire que typiquement, ce genre de publication de lettres par, en format image, c'est typiquement ce qui se passe dans les bibliothèques qui ont des fonds patrimoniaux, qui souhaitent mettre en valeur, faire partager. Donc, si vous voulez, il y a un volet tout à fait de vulgarisation, de partage, de accès. Enfin, de l'élargissement du public de ces institutions, mais en général, il est très compliqué de travailler avec ces gens de ça prend un temps fou, parce que en général, c'est des lettres dans lesquelles il y a vraiment un minimum de travail d'édition. Donc, pour les naviguer, pour les télécharger, pour les lire dans les originaux. Notamment si on ne fait pas un travail d'édition critique pour lequel il est très utile d'avoir les originaux, mais on essaie d'extraire les métadonnées et les informations de ces lettres, ça devient un travail très, très chronophage. Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, la correspondance de ce peintre français qui s'appelle François-Xavier Fabre, qui passe toute sa vie à Florence après son... Enfin, il passe beaucoup d'années à Rome et après, il va à Florence où il passe pratiquement toute sa vie. La bibliothèque de Montpellier a mis à disposition du public les images de sa correspondance, mais je vous assure, c'est ardu d'y travailler. Et on a des choses un peu hybrides. Par exemple, Canova, que... Ah, voilà, OK, il faut que je... Là, je m'arrête. Canova, que je vous ai cité tout à l'heure. Canova, on a maintenant, c'est un peu le paroxysme, parce qu'on a les éditions anciennes disponibles en ligne, les éditions scientifiques sur papier. D'ailleurs, on a que 4 ans de cette correspondance, ça a pris 20 ans, hein. Et ça continue. Les musées de Bassano, où il y a le corpus le plus important de sa correspondance, viennent de mettre en ligne, en format image, tout ce qui restait. Donc, vous avez un peu une tour de Babel de ces lettres. Alors, c'est génial de les avoir, mais là encore, ça prend un temps fou pour le travailler. Il faut savoir qu'un homme comme Canova a un réseau de correspondances qui va de l'Espagne à la Russie. Donc, il y a de tout. Il y a toute l'aristocratie européenne du début de la Restauration passe par l'atelier de Canova. Okay? Et après, vous avez les les professionnels, la Ligue des champions hein, de l'édition numérique. Par exemple, vous avez cette édition, la Ligue des champions numéro 1, Coupe du monde pendant plusieurs années. C'est ce site d'un autre sculpteur de la même époque, rival de Canon, ami, mais rival, très rival même, de Canon, bah, qui est un Danois, qui s'appelle Bert Thorvaldsen, et lui aussi, il passe toute sa vie à Rome. Et le musée qui a été... alors, c'est vraiment l'artiste national par excellence au Danemark. C'est la gloire nationale numéro un. En plus, il a légué une partie de sa collection à l'État. Donc, il y a un musée, monographique avec ses œuvres et ses archives. Et eux, ils font un travail formidable parce qu'il y a à la fois l'édition, enfin l'image, l'édition commentée en format texte, tous les liens vers les œuvres qui sont citées, les biographies, c'est fantastique. Et nous, et là je viens à notre micro-projet, à l'origine, nous, il faut toujours avoir des ambitions, même si après la réalité est très différente. Nous, on avait eu l'idée de faire la même chose que les Danois, avec qui d'ailleurs on avait de très bons contacts, ils nous avaient offert leur logiciel, pour en fait faire un projet concernant les lettres des artistes de toutes nationalités qui avaient séjourné dans la ville de Rome entre 1750 et 1850. C'est un siècle où Rome est l'indiscutable capitale des arts, où tout le monde passe, parfois pour quelques semaines, parfois pour des années, parfois pendant toute la vie, ou juste presque toute la vie. Et c'est un véritable vivier de toutes les nationalités qui va du Mexique à la Russie. Alors, finalement, on n'a pas fait ça. On n'avait ni l'argent, ni les capacités, ni surtout, et je répète la question, je renvoie encore une fois à cette question, on n'avait pas les sites pour nous héberger de manière pérenne. Donc, parmi les milliers d'erreurs qu'on a fait dans ce projet, une erreur au moins, on ne l'a pas faite, une. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas embarqué dans un projet sans être sûr du site qui nous aurait hébergé. On a estimé que c'était trop risqué de nous embarquer dans quelque chose de classe A comme les musées Thorvaldsen et sans avoir la certitude que dans 20 ans, notre travail serait encore accessible. En général, les universités, par exemple, nous, on était toutes des universitaires et pas, on travaillait pas dans des institutions de conservation qui ont une vocation un peu plus pérenne. Le musée Thorvaldsen, il ne va pas fermer ses portes demain. Donc, il peut se permettre d'avoir un projet à très, très, très long terme. Tandis que les universitaires, en général, l'université t'héberge pendant 3 ans. Et puis, au moment où le nouveau président arrive et décide de refaire le site, en général, on risque, pas tous les temps, mais on risque. Donc voilà, nous, ce qu'on a fait, et là, je vais terminer rapidement, beaucoup plus modestement, on a utilisé... à partir de files Excel qu'on a rempli nous sur les sources, Agnès Tricoche nous a réalisé une base de données FileMaker hébergée par Humanum qu'on a utilisée avec des données, des métadonnées finalement. Vous voyez, on avait en fait des métadonnées concernant la lettre elle-même. Les spéditeurs, les destinataires, le lieu, les archives, etc. Avec des mots-clés et parfois avec des notations. Et voilà, là je passe parce que je n'ai pas le temps. Ah, je vous ai amené un livre, j'avais amené les volumes parce qu'on avait quand même aussi des activités qui étaient hors volet numérique, mais il y avait des colloques, des publications, etc. À terme, l'idée, c'était que si on essayait de faire une base de données avec les artistes de toutes les nationalités, on arriverait à voir des réseaux et des connexions que l'historiographie nationale, comme elle s'est formée à partir du 19e siècle, a tendance à cacher, à oblitérer. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir des liens transnationaux qui unissaient ces artistes et qui unissaient les communautés. La lettre nous avait paru un moyen aussi déjà pour commencer à balayer cette question et essayer de esquisser une différente géographie. Et là, je vais conclure. Bon, je saute parce que déjà quelques criticités. Non, ça c'est à moi que j'ai inventé, j'imagine. Certaines difficultés ont apparu assez vite, d'autres beaucoup moins vite. Par hasard, j'ai rencontré l'équipe qui travaille vraiment par hasard. Hein. C'était un séminaire à Paris. Si, par hasard, je vais quand même. J'ai rencontré Miranda Lewis, qui était la responsable de cette base de données, qui en fait est une métabase de données. C'est-à-dire que c'est un site de collecte de différents projets qui sont hébergés, financés et animés par des équipes différentes. Et eux, ils collectent les métadonnées et ils les reversent dans cette base cumulative qui s'appelle MLO. Et voilà, et donc on a quand même pu tirer quelque chose de notre projet parce qu'on a fait un procédé très long que je vous passe, blablabla. Comme on n'a pas le temps, j'ai passé 3 ans de ma vie. Et voilà, et en fait, ce qu'on faisait, on faisait les Excel, après, dans la base de données, où on rentrait les données directement dans la base de données en ligne, mais après, on les extrait à nouveau au format Excel et on les envoyait à MLO pour qu'ils les traitent. Et finalement, vous voyez, on a des fiches comme ça. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est un résultat un peu minimal par rapport aux ambitions qu'on avait, mais surtout parce que finalement, on n'a pas pu avoir les lettres ni en format image, ni en format texte, parce qu'eux aussi, ils commencent à avoir des problèmes d'hébergement. Et des places, parce qu'ils commencent à collecter beaucoup de souvenirs. Mais bon, disons qu'il y a quand même des choses intéressantes que la base de données permet, et notamment, ça permet de croiser des données de notre propre recherche, mais qui viennent de correspondances différentes. Donc, ça, c'était l'un des buts. Et aussi, parfois, ça nous permet de nous connecter avec d'autres projets qui sont fédérés dans MLO. Et parce que, de toute manière, c'est une culture savante, une culture du 17e, 18e, début 19e, où il y a d'autres projets qui travaillent sur les mêmes questions, et parfois, on a la possibilité de croiser les données. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup, Maria Pia. Cette idée de sérendipité qui est au cœur des rencontres aujourd'hui et de mise en commun, une collaboration. Merci infiniment.